Là, ça devrait fonctionner. Super. Ça me fait très plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui. C'est vraiment une grande joie. Et enfin, je suis là tous les dimanches, mais différemment. En tout cas, là pour prendre la parole. Et je voudrais partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais la semaine dernière, lors du culte, beaucoup de paroles inspirées ont été données et qui étaient au sujet de l'alliance. Et Farid a fait aussi un message sur un aspect, une notion de l'alliance. Alors j'avais envie ce matin de continuer dans cette mouvance prophétique et dans cette dimension de l'alliance selon la parole de Dieu. Alors ce matin on va lire deux petites histoires, donc je vous invite à prendre vos Bibles si vous les avez. Et puis on va lire ces deux histoires qui vont nous aider à comprendre l'alliance. La première qu'on va lire c'est dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 34. Donc je vous laisse chercher deux secondes. Jérémie, c'est à peu près, un peu après la moitié de la Bible. Voilà. Le milieu, c'est les psaumes. Après, il y a quelques autres livres, Proverbes, Ecclésiaste. Il y a Ésaïe, un gros livre. Quand vous avez trouvé Ésaïe, vous n'êtes pas loin de Jérémie, c'est juste après. Voilà. C'est comme le chemin ici, il faut des guides. Jérémie 34. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que le roi Sédécias eut fait un pacte, une alliance, avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté afin que chacun renvoyât libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tînt plus dans la servitude le juif, son frère. Tous les chefs et tout le peuple qui étaient entrés dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et ils les renvoyèrent. Mais ensuite, ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis, et ils les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » J'ai fait une alliance avec vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et je leur ai dit, au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui. Il te servira 6 années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Vous, vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même, vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux. En publiant la liberté pour chacun, pour son prochain. Vous aviez fait un pacte devant moi, dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenu en arrière et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Vous ne m'avez pas obéi. En publiant la liberté pour chacun son frère, pour chacun son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famine, et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre les morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Sédécias, roi de Juda, et ses chefs entre les mains de leurs ennemis, etc. En fait, dans le Moyen-Orient ancien, il y avait une coutume qui était pratiquée pour ratifier une alliance. C'était en fait un pacte de sang. Le rituel consistait à couper des animaux par le milieu, à les disposer en 2 rangées, et les personnes qui faisaient le pacte, imaginez, hein, faites-vous le film dans la tête, hein, on prend des animaux, on les coupe en 2, là c'était des veaux, on les coupe en 2, on fait un chemin, et les deux parties, les personnes qui font le pacte, ratifiaient le pacte en passant au milieu des animaux. Cela garantissait l'engagement de ces personnes à respecter les clauses de l'alliance. Cela revenait à dire que mon sang soit versé et mon cadavre livré aux animaux si je n'honore pas ma part du contrat. C'était comme ça que ça se faisait. C'est la première petite histoire que je voulais vous lire. Ça, c'est dans le livre de Jérémie. Jérémie, c'est dans les environs de 600 avant Jésus-Christ, à peu près. Plus de 1000 ans avant cet épisode, on va lire un autre texte. La Bible nous montre donc un épisode identique dans lequel une alliance aussi est ratifiée entre des parties. On va le lire, c'est dans Genèse 15. Alors, on va le lire, puis je vous invite à être attentif, parce qu'il y a une petite différence, mais qui fait une énorme différence, d'une très grande signification, entre le texte qu'on vient de lire et cette ratification d'alliance, qui a été rompue, hein, dans le texte, cette alliance a été rompue par les Israélites, qui eux-mêmes avaient fait ce pacte, puis sont revenus en arrière et Dieu a dit, ben voilà, vous reprenez la liberté des esclaves, mais moi je vous libère l'épée, la famine et tout. Et là, on va lire donc dans Genèse 15. Voilà, vous avez eu le temps de trouver, ça c'était facile. C'est le premier livre de la Bible. Hein. Ça, je crois que même les non-croyants le savent, s'ils ont un minimum de petite culture. Alors, Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. » Parce qu'en fait, dans Genèse 12, Dieu avait déjà fait l'alliance avec Abraham. Il avait annoncé l'alliance avec Abraham. Et l'alliance comprenait une terre et une descendance. Et là, le temps passe et Abraham dit logiquement à Dieu, « Mais que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. » Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. C'est là qu'il y a ce fameux verset qui est repris dans le Nouveau Testament sur la foi d'Abraham. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je alors que je le posséderai ce pays ? Ou plutôt que ma descendance le possédera. » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, prends une chèvre de 3 ans, prends un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, il les coupa par le milieu et mit chaque morceau vis-à-vis l'un de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux, ils étaient trop petits. Donc il a mis les oiseaux de part et d'autre pour faire ce chemin. Les oiseaux, le temps passe un peu, voilà. Abraham fait selon les coutumes de l'époque, il fait ce chemin d'alliance, selon ce que Dieu lui indique. Mais le temps passe encore là aussi un peu. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, l'Égypte. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes de feu qui passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité, donc tu auras une postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kéniziens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens. » Alors, est-ce que vous avez repéré la petite différence qui fait toute la différence ? Le rituel de conclusion d'une alliance entre deux parties demandait à ce que les deux parties s'engagent en passant toutes deux au milieu des animaux sacrifiés. Dans l'épisode de Jérémie, les chefs d'Israël font un pacte avec Dieu pour montrer qu'ils sont décidés à revenir à Dieu et à obéir à une des prérogatives de la loi de Moïse, c'était le fameux sabbat où on ne pouvait pas, l'année sabbatique, où on ne pouvait pas garder des esclaves hébreux. Donc des esclaves, c'était des serviteurs, hein, plus qu'il ne faut pas avoir l'idée, l'image de l'esclavage des Africains, ça n'avait rien à voir. Mais voilà, les pauvres se mettaient au service et donc au bout de 7 ans, on devait les libérer. Bon, ça c'était une parenthèse. Mais ils avaient transgressé cette loi et donc ils décident de faire un pacte. Ils mettent des animaux, ils passent au milieu des animaux. Il ne nous est pas dit que Dieu passe. Là, ce sont eux qui passent. Et donc ils s'engagent. Et eux qui sont passés au milieu des animaux morts, ils sont engagés au risque de leur propre sang, puisque c'est un pacte de sang. Mais ils ne tiennent pas leurs promesses. Et on comprend pourquoi Dieu leur promet les conséquences de la rupture du contrat. L'épée, la famine, etc., les ennemis qui arrivent, etc., etc. Dans Genèse 15, c'est Abraham qui n'est pas passé au milieu des animaux. En revanche, c'est Dieu lui-même, sous forme d'une fournaise fumante, qui est passé et qui s'est engagé et qui a scellé l'alliance. Vous voyez la petite différence ? Mais qui va tout changer. Il s'est engagé avec Abraham et avec sa descendance à accomplir sa promesse. Dieu est engagé. La promesse qui avait été faite à Abraham en Genèse 12 et qui a rappelé à plusieurs reprises qui a été aussi renouvelée avec Isaac et Jacob, cette promesse, c'est Dieu qui en est garant. Cette promesse, c'est une terre et une descendance, comme je l'ai dit. La terre, bien sûr, c'est la terre d'Israël. Et la descendance, c'est le peuple d'Israël, c'est les descendants d'Isaac, de Jacob, des 12 fils de Jacob. Mais c'est plus qu'Israël. C'est tous ceux des nations que Dieu adjoindra ensuite au peuple, comme par adoption. On a l'idée, par exemple, de Ruth, cette Moabite qui va être inclue. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Qui est inclus, qui deviendra d'ailleurs une ancêtre de Jésus. Et Galates 3:29 nous dit, si vous êtes au Messie, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, en Jésus, il y a cette intégration à cette promesse et à cette alliance très ancienne faite avec Abraham. Alors, pourquoi est-ce important de comprendre la notion d'alliance dans la Bible ? Parce que la Bible nous montre que Dieu organise toujours sa relation avec les humains par le biais d'alliances. Dieu rencontre l'homme par le moyen d'alliances. On se souvient que lors de la création, Dieu a créé l'homme. Pourquoi ? Pour établir et entretenir une relation privilégiée avec lui. Malheureusement, l'homme va trahir Dieu et il va chuter. et une séparation va s'établir entre l'homme et Dieu. Mais malgré cette chute, Dieu n'a pas voulu toujours garder ses distances avec l'homme. Au contraire, il condescend, on pourrait dire, à avoir une relation avec l'homme, même déchu. Et on va le voir, Dieu vient toujours à la rencontre des hommes par le moyen d'alliances. Ces alliances établies formalisent ce désir de relation que Dieu a avec le genre humain après la création et même après la chute. Alors, qu'est-ce que c'est une alliance selon les Écritures ? Parce que, on l'avait dit la semaine dernière, une des plus classiques images qui nous vient quand on parle d'alliance, pour nous, c'est l'alliance qu'on a au doigt, et c'est l'alliance du mariage, où on a un engagement mutuel, etc., jusqu'à ce que la mort, etc. Hein. Est-ce que c'est tout à fait ça, l'image de l'alliance dans la Bible ? On va le voir. Qu'est-ce que c'est une alliance dans les Écritures ? Et quels sont les éléments qui constituent une alliance ? Alors, j'ai fait une petite liste, mais ce n'est pas exhaustif. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Sur ce thème de l'alliance, il y aurait des pages et des pages, hein, et des heures d'enseignement à faire. Mais donc, j'ai fait quelque chose un peu global. Une alliance, dans la Bible, elle est toujours à l'initiative de la libre volonté de Dieu. Les alliances dans la Bible, c'est toujours Dieu qui initie. Deuxièmement, elles comportent toujours une promesse principale, des promesses, mais souvent une promesse principale. Ensuite, elles comportent ce que les théologiens appellent une tête fédérale. Alors, c'est quoi une tête fédérale ? En fait, une tête fédérale, c'est une personne avec qui est traitée l'alliance et qui, en elle-même, résume tout le monde. L'image pour que vous allez vite comprendre, c'est l'histoire d'Adam, par exemple. Adam est une tête fédérale, c'est-à-dire que nous étions tous en Adam. Et que comme Adam a chuté, nous avons tous chuté. Comprenez ? Le Nouveau Testament va nous présenter Jésus comme tête fédérale du salut. Et nous, si nous sommes tous cachés en Jésus, puisque Jésus a été ressuscité, etc., et qu'il a accompli le salut, donc et qu'il est ressuscité, qu'il est revenu à la vie, nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui et nous reviendrons à la vie, etc. D'accord ? C'est ça un peu la tête fédérale. Un autre point, après la chute, l'alliance est toujours ratifiée avec du sang. Encore un point, l'alliance comporte certains éléments clés qui permettent de la reconnaître, des signes distinctifs. On va en toucher un mot, mais par exemple, quel est le signe distinctif de l'alliance avec Noé ? L'arc-en-ciel. D'accord ? Un autre point, une alliance dans la Bible nécessite une réponse de l'homme pour qu'il puisse y entrer. Et enfin, c'est le dernier point que j'ai choisi, dans une alliance selon la Bible, il y a toujours et régulièrement, dans chaque alliance, des règles et des principes particuliers. Pareil pour Noé, par exemple, il y a certaines règles, les lois de Noé, qui réglementent cette alliance. Alors, je voudrais dire un petit mot sur ce qu'on appelle l'alliance, la théologie de l'alliance. La théologie de l'alliance... c'est les théologiens qui appellent ça comme ça et on va voir que c'est utile un peu. En fait, le principe de la théologie de l'Alliance, c'est la continuité du plan éternel de Dieu et le maintien d'un plan de salut dès après la chute. C'est-à-dire, dès qu'il y a la chute, Dieu commence un plan qui va durer tout au long de l'histoire biblique et qui va finalement prendre corps dans la venue et l'œuvre du Messie et son œuvre sur la croix. D'accord ? C'est ça la théologie de l'Alliance, c'est que Dieu a un plan qui va se dérouler progressivement. Il y a donc un lien d'unité et de continuité entre toutes les alliances qu'on va trouver dans la Bible et qu'on va très rapidement survoler. L'homme, après la chute, est en détresse et sans force. Il est incapable de subsister devant Dieu au moyen de ses œuvres. il est incapable de se réconcilier avec Dieu. Le seul moyen pour Adam et Ève et leur descendance d'entrer de nouveau en relation avec Dieu ne peut être que par la miséricorde, à aucun moment par leur mérite. Dans la malédiction prononcée contre le serpent, donc juste après la chute, il y a une promesse de rédemption dès le début pour le salut de l'homme. C'est Genèse 3,15. Il est dit en Genèse 3,15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, le serpent, le Satan ancien, et tu lui blesseras le talon. » L'image qu'on voit des pieds percés du Seigneur Jésus. Immédiatement après la chute, et donc dès la première sentence prononcée suite à cette chute, Adam et Ève sont l'objet d'un dessein d'amour qui se met en place et de miséricorde de Dieu. Dieu ouvre à Adam et Ève et à sa postérité, à leur postérité, une porte d'espoir, une possibilité nouvelle d'entrer en relation avec lui et de lui plaire. Le signe et le sceau temporel de cette alliance, puisque dans toute alliance, il y a un signe, quel est-il ? C'est le sacrifice des animaux en Genèse 3,21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Ils étaient nus. Dieu va faire un sacrifice, il va y avoir une alliance de sang et il va les couvrir de la peau de ces animaux. Ils vont être cachés dans ces animaux sacrifiés de la même façon que aujourd'hui nous sommes cachés en Jésus. Ce sacrifice est déjà une évocation du sacrifice à venir de ce qu'on appelle la postérité souffrante, c'est-à-dire cette postérité qui va venir plus tard et qui va souffrir. Et c'est un type de la justice qui est imputée à Adam. Quelques mots sur cette alliance dont on parle, qui est en fait ce qu'on appelle l'alliance de la grâce. Pour les racheter de tout temps, il y a de nouveaux principes qui encadrent leur relation avec Dieu, différents des principes qui présidaient pour Adam lors de la création. Lors de la création, pour Adam, il s'agissait de principes créationnels de perfection dans les œuvres. C'est ce qu'on appelle parfois l'alliance des œuvres. Mais maintenant, il se fonde sur la miséricorde et le pardon au travers d'un rédempteur. Dans l'alliance avec Adam, Adam était créé parfait et son rôle, c'était d'obéir et de suivre. Il y avait cette règle, tu mangeras de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de celui-là. Et cette tentation, Adam, créé à l'image de Dieu et parfait, j'allais dire, avait la possibilité en lui-même de résister. Il avait, lui, le vrai seul libre arbitre qu'aucun autre être humain n'a jamais eu. Ce libre arbitre de pouvoir dire oui ou de pouvoir dire non. Malheureusement, il a dit oui à la tentation. Et donc ça a brisé cette alliance des œuvres. Et maintenant, c'est plus jamais par les œuvres qu'on peut s'en sortir parce que nos œuvres sont toujours entachées par cette faute et par le reste du péché que nous avons acquis en Adam. Dans l'alliance de grâce, au contraire, l'unique condition, c'est la foi, c'est l'espérance. C'est la foi en la promesse de la postérité souffrante. Alors nous, la postérité souffrante, elle est derrière nous, c'était il y a 2000 ans. Mais dans les alliances dont on parle là, c'est une postérité à venir. D'accord ? Tant que Christ n'a pas paru dans la ligne du temps, et qu'il n'a pas exécuté de façon formelle par son sacrifice cette alliance de grâce, comme dit Hébreux 9,16, en fait, cette alliance, elle a la forme d'une promesse. Il va venir, il viendra. Et elle est révélée progressivement au sein de diverses alliances. Alors, je vais citer rapidement quelques-unes de ces alliances, pas quelques-unes toutes, mais il y a d'abord l'alliance avec Noé. J'en ai dit quelques mots tout à l'heure. C'est la première alliance qui est formalisée dans la Bible et qui a un certain nombre des critères que j'ai décrits pour les alliances. C'est une alliance avec qui? C'est une alliance avec Noé comme tête fédérale et toute l'humanité qui va suivre Noé. C'est une alliance globale pour toute l'humanité. La tête fédérale, donc, est Noé. Le signe, on l'a dit, c'est l'arc dans le ciel. Il y a le sang des sacrifices d'animaux. La première chose que Noé fait au sortir de l'arche, il prend des animaux purs et il les sacrifie à Dieu. Donc, il valide cette alliance. Et quelle est la promesse qui s'attache à cette alliance? Je ne détruirai plus la terre par les eaux. Ensuite vient l'alliance avec Abraham. On a déjà dit beaucoup, donc je ne vais pas dire grand-chose. Cette alliance a un signe. Quel est le signe de l'alliance avec Abraham? La circoncision. La tête fédérale, bien sûr, c'est Abraham. Le sang, c'est le sang du sacrifice d'Isaac, mais qui est un sacrifice de substitution. Et déjà, ça nous parle beaucoup de l'avenir. Donc, vous voyez, il y a tout ça dans l'alliance d'Abraham. C'est incroyable. Ensuite vient l'alliance de Moïse. Alors, l'alliance de Moïse, elle est un peu particulière. D'abord parce qu'elle est inclue dans l'alliance d'Abraham. Elle n'est pas en dehors. Ce n'est pas une autre alliance qui concerne d'autres personnes. Cette alliance de Moïse, elle concerne les gens qui sont dans l'alliance d'Abraham. Et ce qui est aussi particulier, c'est qu'elle comporte une forme d'alliance des œuvres. Ça y ressemble en tout cas. Parce qu'elle dit, mets en pratique et alors tu vivras. Et donc il y a une forme de rappel de l'alliance des œuvres. Mais cette alliance est un sous-ensemble, j'allais dire, de l'alliance avec Abraham. L'alliance avec Moïse a une dimension d'alliance des œuvres au sein de laquelle l'alliance des œuvres qui était en Adam a été brisée, mais il y a un rappel. On rappelle que normalement, la relation avec Dieu, ça passe par une obéissance. Mais cette obéissance est impossible. Et cette alliance, elle a bien sûr une visée pédagogique, c'est le Nouveau Testament qui nous le dit, notamment au travers des lois morales qui sont données à Moïse. Cette alliance, elle a des dispositions qui viennent encadrer un contexte national théocratique. Israël devient une nation qu'il faut gérer avec l'argent, avec les lois, avec toutes sortes de choses à gérer. Et ça, c'est fait au travers de lois cérémonielles pour les fêtes, etc., puis au niveau de lois juridiques. Mais elle a surtout aussi une dimension de l'alliance de grâce en elle. Elle a un côté salvateur avec les lois du sacerdoce lévitique. Là encore, il y a le sang. Et qui, comme les autres alliances, pointe vers le sacrifice suprême à venir. Donc, en elle-même, l'alliance de Moïse, même si elle rappelle l'alliance des œuvres, a une alliance de grâce. Et puis ensuite, il y a l'alliance faite avec David, l'alliance davidique, qui est un sous-ensemble et une réactualisation de l'alliance avec Abraham. L'alliance a donc une unité et une continuité depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Les différentes alliances sont des dispensations différentes de l'alliance de grâce. En fait, c'est un petit peu comme aussi des poupées russes. Vous savez, l'alliance avec Noé qui englobe tout le monde, puis l'alliance avec Abraham qui englobe les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et puis l'alliance de Moïse aussi qui les concerne, encore une poupée, mais qui est à l'intérieur. Et puis ensuite vient la postérité, David qui en fait partie et qui annonce cette royauté, et puis Jésus qui arrive et qui est encore là au milieu. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, en Jésus, il y a vraiment une inversion complète. C'est-à-dire que, alors que Jésus devrait être le sous-ensemble des sous-ensembles, en fait, il devient le tout. Et c'est lui-même qui a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, en conclusion, on va parler bien sûr de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance constitue un peu l'apothéose, l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu et le but ultime de tous les développements des alliances précédentes. Il a une tête fédérale, elle a une tête fédérale, cette alliance, c'est Jésus. Il y a bien une alliance ratifiée par du sang, son propre sang, Elle a aussi un signe, un double signe, cette alliance, le baptême et la scène. Et puis il y a la promesse, elle a aussi bien sûr une promesse, c'est le salut et la gloire à venir. Et en fait, cette nouvelle alliance est l'accomplissement de la promesse qui avait été faite en Genèse 3,15. Hein, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette alliance, tout comme celle en Abraham, elle est inconditionnelle, car elle repose sur les mérites d'un médiateur, Christ, qui a accompli l'alliance des œuvres que Adam avait brisées. Lui seul a pu faire cette alliance des œuvres, c'est-à-dire que lui seul n'a jamais péché. Et donc c'est pour ça qu'il a été qualifié pour être celui qui allait faire l'alliance. Lui seul a marché au milieu des animaux. Lui seul. Tous ceux qui sont membres de cette alliance sont au bénéfice de la plénitude de l'œuvre de Jésus et des promesses qui en dépendent. Et toutes les promesses sont assurées. Alors, pour terminer, je voudrais redire juste en conclusion, ce n'est pas nous qui avons fait alliance avec Dieu. Ce n'est pas Dieu et moi. Ce n'est pas l'alliance comme j'ai fait avec ma femme, une alliance réciproque où les deux sont engagés. Ce n'est pas une alliance où nous avons marché au milieu des animaux. Ça, ce n'était pas possible. On était incapable de tenir cet engagement. C'est lui qui a fait alliance avec moi. C'est lui qui a fait alliance avec vous. C'est lui seul qui est passé au milieu des animaux. Le garant de l'alliance, c'est lui, c'est pas moi. Si je suis infidèle, David le rappelait au début de ce culte, Dieu demeure fidèle. Si je suis infidèle, Dieu demeure fidèle. Ça, c'est extraordinaire. C'est ce qu'expriment les idées qu'on appelle parfois hein, l'élection, la prédestination, etc. C'est lui qui est à l'œuvre. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'alliance faite avec Abraham, elle est indestructible. L'alliance faite avec Abraham, elle est indestructible. Et si Dieu revenait sur son alliance avec Abraham, et donc avec les descendants d'Abraham, avec Israël, si Dieu revenait sur cette alliance-là que, dont lui seul est le garant, il ne serait plus Dieu. Il mériterait le jugement. J'ai des mots que je ne peux pas prononcer tellement c'est une aberration. Dieu ne peut pas revenir. Et si Dieu revenait sur cette alliance avec Abraham et avec les descendants d'Abraham, ça voudrait dire qu'il pourrait revenir sur l'alliance qu'il a fait avec moi. Ça voudrait dire que mon salut n'est pas assuré. Alors que là, il est assuré. La réciprocité dans cette alliance, elle est donc très relative. Bien sûr qu'il faut que je réponde à l'appel de cette alliance. Et on a tous, si on est là, je pense, et s'il y en a qui ne l'ont pas encore fait, il faut le faire, et même parmi les jeunes, les enfants de chrétiens, il faut répondre à cet appel à l'alliance. Mais c'est une réponse bien faible. Et le Nouveau Testament nous montre qu'en fait, même cette réponse, c'est lui qui l'a créée en nous. Ça, c'est incroyable. Donc la réciprocité est très relative dans l'alliance. J'allais dire peut-être, je réfléchissais à ça en méditant sur ce message, peut-être que cette réciprocité, elle aura lieu lors des noces de l'agneau. Parce que pour le moment, on est plus la fiancée du Seigneur que l'épouse du Seigneur. Mais lors des noces de l'agneau, là, il va y avoir, j'allais dire, cette bague. Peut-être il va y avoir une forme de réciprocité. Mais là, on sera déjà dans le royaume, donc on sera déjà changé, on sera déjà ressuscité. On sera dans l'ère à venir, dans le monde qui vient. Mais en attendant, c'est pas comme ça que ça marche. En attendant, c'est Dieu qui est engagé. Donc si tu te poses des questions, comme on disait tout à l'heure, sur ta vie, sur si tu vas tenir bon, si c'est dur ou pas dur, si sache que c'est pas toi qui tiens debout, c'est lui qui a le pouvoir de te tenir debout. La garantie, c'est la fidélité de Dieu afin que ce soit par la bonté et la miséricorde de Dieu. Car nul d'entre nous n'est à la hauteur des exigences de l'Alliance. Alors, est-ce à dire qu'on peut traiter à la légère cette Alliance et négliger les œuvres de l'Alliance? Bien sûr que non. Nul d'entre les bénéficiaires de cette Alliance ne va pécher pour que la grâce abonde. Paul en parle. Mais en tant qu'enfant adoptif d'Abraham, en tant que fils adoptif entré dans l'Alliance, puisque nous n'étions pas de la descendance, enfin pour la plupart d'entre nous, d'Abraham, eh bien en tant que fils adoptif de l'Alliance, nous faisons les œuvres d'Abraham. C'est quoi les œuvres d'Abraham? C'est la foi, c'est la prière, c'est la rencontre avec Dieu, pensons à toutes ces rencontres avec Dieu d'Abraham. C'est cette vie avec l'esprit, j'allais dire, Abraham qui a des visions, à qui Dieu parle, etc. C'est la pratique de l'amour, de la justice, cet amour qui résume toute la loi qui a été donnée à Moïse. La transmission de la promesse aux générations suivantes, ça c'est l'œuvre d'Abraham aussi, transmission aux générations d'après. Et puis surtout, comme Abraham, l'attente de la venue. Regardez, il nous est dit qu'il regardait au loin et qu'il voyait déjà la venue de celui qui doit venir, qui devait venir, qui est venu et qui va venir. Et qui va accomplir donc les promesses qui ne sont pas encore réalisées concernant sa royauté, parce qu'on ne voit pas encore que tout lui soit soumis, nous dit le Nouveau Testament, mais il vient bientôt. Alors on le verra, frères et sœurs, on va le voir. On va le voir. On va le voir. Bientôt. Et cette espérance, elle nous porte jour après jour au sein des épreuves que nous pouvons traverser. Alors, voilà, c'est un encouragement. Cette alliance, elle est garantie. Pas par toi, mais par lui. Il est passé au milieu des animaux, du temps d'Abraham et du temps de Jésus aussi. Ça suffit. C'est suffisant. Tout est accompli. Il est fidèle et il mènera toutes choses à bonne fin. Amen.